n'est qu'une bande de trolls, diaboliques, sans aucun respect, ni aucune considération, pour rien, ni personne, sauf nous.
Ah désolé, Axiom. J'ai perdu mon texte déjà, c'est super. Il est où? Il est là. Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans la 200e de Serial Causeur. Qu'ont en commun Firefly, John Doe, Freaks and Geeks, Emerald City, Tomorrow People, Peach et Révolution? Outre le fait qu'elles sont annulées depuis très longtemps, elles ne cumulent pas à L7 200 épisodes.
Oh, nul.
200 émissions. 200 émissions, oui, ça. Non, 200 émissions. 200 émissions, c'est beaucoup.
Des liaisons dangereuses.
C'est 200 montages, 200 sujets, 200 uploads, 200 lendemains où on se dit on aurait pu faire mieux. 200 émissions en presque 10 ans, c'est un rythme plutôt soutenu. Et j'imagine que comme dans tout podcast, on oublie tout ce qu'on a fait il y a 10, 20, 30, 150 émissions. Mais pour les séries, on se souvient de presque tout quand on l'adore. Petit bémol sur NCIS et Grey's Anatomy, possiblement. Gros bémol sur les séries où les saisons s'enchaînent tous les 2 à 3 ans. Souvenez-vous, il y a 100 émissions. Nous étions réunis également en janvier 2020. Bim, conséquence, 2 mois après, on annonce la pandémie de Covid. Le monde d'après, eh bien là, on ne sait plus trop si on a changé, si le monde a changé. Est-ce que les séries ont changé? Ou c'est nous? En 100 épisodes, encore. Il peut se passer tellement de choses, alors imaginez en 200. Et combien de séries actuelles peuvent atteindre les 100 à l'heure des saisons de 8 épisodes? 8 épisodes. 8. Je mets un H. Il faudrait donc, calcul rapide, 12 saisons de 8 épisodes pour ne même pas arriver à 100 épisodes. Alors, temps de visionnage. Il faut 3 jours de The Office pour 201 épisodes. 3 jours de Game of Thrones pour 73 épisodes. Et Stranger Things dure 1 jour et demi pour 34 épisodes. Donc le temps s'allonge suivant les séries. Alors ce soir, on va parler de cette évolution post-Covid. Et si on va un peu plus loin dans le passé, de cette période post-âge d'or de la Peak TV, est-elle morte derrière nous? Est-ce la fin de l'âge d'or des séries? Question. Où en est-on? Bref, ce sont les états généraux de la série et de la série Félie. Merci à tous d'être réunis autour de cette petite table pour fêter les séries comme il se doit. Et pour se chauffer la voix... Non, je vais trop vite. Et pour fêter la dernière du podcast, enfin, tout du moins ma dernière, je laisse les clés aux autres, on verra ce qu'ils vont en faire. Alors, qui sont ceux qui regardent les séries, ceux qui les consomment, ceux qui les font? Comment les regarde-t-on ou les diffuse-t-on? Comment faire pour que nous, sérifiés en communauté, puissions... J'ai même pas fini ma phrase. Puissions. Au programme, un débat bien sérieux, entouré de jeux avec pour thème les séries, bien évidemment. Et comment peut-on mieux fêter une 200e qu'avec plein de gens? Avec moi pour en parler, les causeurs actuels. La femme qui tente de défier les séries face à face pour qu'elle puisse aussi les partager avec sa fille, c'est Mélanie.
Bonjour.
Elle ne se souvient que de Firefly, c'est acquis.
C'est de plus en plus faux en plus.
Il ne se rasera que quand il aura vu une mauvaise série, c'est Stéphane.
Ça n'arrivera jamais.
Il parle comme s'il avait déjà tout écrit, tout préparé, tout répété, sauf les noms des personnages, c'est Maxime.
Bonsoir, qui êtes-vous?
Passons aux anciens, aux visiteurs, aux passants. Celle qui aura toujours quelque chose à dire sur les séries françaises, c'est Elodie.
Bonjour.
Il s'est dit qu'il fallait 42 minutes pour parler séries, et puis comme les séries, il s'est allongé pour faire des épisodes longs lui aussi. C'est Aurélien du podcast 42 minutes.
Salut.
Lorenzo Lamas lui a demandé la marque de son shampoing, c'est Olivier de Monsieur Serie and Friends.
Salut.
Alors j'ai cherché sur Google une Sarah K et on tombe sur son Instagram évidemment, mais en deuxième on tombe sur une Sarah K sur LinkedIn qui n'a rien à voir et qui grâce à ses expériences professionnelles eh bien, a développé une forte aisance professionnelle, tout comme peut-être Sarah.
Mais c'est aussi moi en fait.
Également Monsieur Série and Friends. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Alan, j'ai oublié Alan. Il s'est dit qu'habiter à 5 minutes de chez moi serait une bonne idée, le fou, c'est Alan.
Je confirme, c'était pas une bonne idée.
Taylor Swift sera aussi là, entre deux chansons. Elle nous dira sa série préférée, bon, à coup sûr, c'est Lost.
J'espère.
Bon, est-ce que tout le monde va bien, sinon?
Oui.
Qui était là la première de Serial Causeur?
Moi.
Je crois que c'est la seule.
Qui était là la 100e de Serial Causeur?
Moi.
Moi. Aussi.
Et qui est enfin là la 200e? À qui?
C'est vrai.
Et on est chez elle, en plus. Il faut le dire.
C'est vrai.
Elle, en plus. Wow.
Le débat de ce soir tournera autour de nos habitudes. On a changé pas mal de formules durant 200 épisodes et 10 saisons. On a changé de causeur, mais a-t-on changé la façon dont on parle séries, dont on les regarde, les consomme, les écrit? On part de la fin de la Peak TV, on ne parle plus vraiment des mêmes séries au même moment. Où va-t-on? Voici donc les états généraux de la sériphilie. Alors, première question. Est-ce que l'âge d'or est derrière nous ?
En termes qualitatifs, très certainement.
Très bonne première phrase d'Aki.
La seule.
Oui, la seule intéressante. Ensuite ?
Ben non, mais je pense qu'on est tous d'accord là pour dire qu'il y a une tonne de séries qui sortent et malheureusement, les plateformes, parce que maintenant c'est plutôt les plateformes qui produisent, n'y mettent pas forcément le budget qu'il faut et le fameux algorithme empêche beaucoup de bonnes séries de voir le jour, je pense.
Next. Mais du coup, est-ce que ça les empêche de voir le jour ou est-ce que juste qu'on les voit pas ? Parce qu'en fait, c'est ça, moi, pour moi, c'est ça, hein, c'est que la quantité fait qu'il y a pas mal de séries qui passent sous le radar et que souvent, il y en a un qui va tomber dessus, ça va faire boule de neige, etc. Mais je pense que c'est plus ça, en fait.
Et des fois, trop tard.
C'est ça. C'est qu'avant, on en avait, tu vois, on avait la trilogie du samedi, on en avait trois, et puis on regardait tous la même chose. Là, maintenant, bon, bah, forcément, dans le lot, dans le choix, il y en a plein qui, à mon avis, on n'en entend même pas parler, qu'elles sont géniales, enfin, je pense.
Oui, puis tout dépend de ce qu'on entend par âge d'or, parce que si on parle en termes de production pure et dure, on est quand même encore en plein dedans, justement, le fait qu'on ait de plus en plus d'acteurs qui se mettent à la production, après quel que soit le niveau de qualité, c'est encore, on va dire, différent, mais la consommation de toute façon est différente par rapport à il y a quelques années. Moi j'ai envie de dire, il y a quand même maintenant du choix pour beaucoup plus de monde qu'avant. Après, faut voir jusqu'à quand cette bulle va tenir. Et moi, je pense qu'elle va finir par éclater à un moment donné, parce qu'on peut pas continuer comme ça, quoi.
Est-ce qu'elle est pas déjà en train d'éclater avec le mode de diffusion, rien que déjà ça, où ils essayent de revenir à du
hebdomadaire,
découpé ou hebdomadaire selon les plateformes. Enfin, même là, en termes de quantité, là, il y a les chiffres qui sont sortis où Netflix, depuis 2 ans, ils diffusent de moins en moins de séries toutes les semaines. Enfin. Rien ne peut tenir jusqu'au bout comme ça. Ils n'ont pas d'argent à claquer. Nous, ça nous coûte plus cher de payer 3 abonnements si tu veux regarder Disney, Prime ou machin. Enfin, il y a forcément. Ça est en train de se casser la gueule, mais après, à quel point ça va se casser la gueule, c'est surtout ça que.
Mais est-ce que c'est trop de séries ou pas assez de bonnes ? Ou nous, on est trop exigeants ? Ou nous, on les oublie ? On ne partage pas.
On est forcément trop exigeant, mais parce que bon, après, en même temps, on n'est pas le public lambda non plus sur les séries. Donc, il y en a beaucoup. Il y a des très bonnes qui personne ne les regarde. Il y a des très bonnes que tout le monde regarde. Il y a des moyennes que tout le monde regarde. Enfin, Max Tunnel, tu vois, le truc qu'on a regardé ensemble, ça aurait jamais dû voir le jour encore aujourd'hui. Mais sauf que
de quoi tu parles ?
Max Tunnel. C'est une série teen sur Prime Video qui a commencé vendredi.
Inspiré
d'un livre, mais ça n'a strictement aucune utilité de faire, à part apporter du contenu à Prime Video qui n'a pas grand-chose à proposer, quoi. Enfin, voilà.
Mais pour moi, le problème, c'est pas tant la quantité ou la qualité, c'est juste la manière dont tu y accèdes. Et maintenant, quand t'as 6 ou 8 épisodes une fois tous les 2 ans, t'as plus de rendez-vous avec la série. Elle est dispo le vendredi, le lundi, plus personne n'en parle. Parce que il y a the next big thing qui arrive et on a empêché toute conversation en fait autour de la série et c'est ça qui faisait aussi les succès d'avant. C'est pas forcément que la qualité. Enfin, on a tous regardé des séries qui étaient pas forcément très qualitatives, mais c'était juste le fait qu'on puisse tous en parler, notamment la trilogie du samedi. Bon, ça c'était à notre époque, mais même quand Twitter a commencé, il y avait cette conversation là qui était possible et aujourd'hui elle est plus possible, ou alors il est possible qu'avec une seule personne à qui tu auras recommandé la série et à qui tu vas savoir que tu peux en parler avec lui, mais tu croiseras pas quelqu'un qui a regardé, je sais pas, Le Problème à Trois Corps à la machine à café.
Et aussi vite que toi aussi.
Et c'est vrai
ça,
que...
c'est surtout une question de temporalité en fait, parce qu'en fait on regarde tous les mêmes séries, mais moi j'ai une liste qui fait que je regarde des séries dont tout le monde parle, enfin, bon. La majorité parle, mais genre 2 ans après, parce que j'ai tellement de séries à regarder en fait que je suis plus du tout à jour sur moi quand je vois, enfin je sais pas comment font les gens pour regarder des séries comme ça, des saisons entières en très peu de temps, et du coup moi je suis largué en fait, donc je parle séries que à travers le podcast, mais sinon je parle plus séries du tout avec les gens, parce que la plupart du temps quand je parle des séries que je suis en train de regarder, ils les ont déjà vues depuis longtemps, ils les ont oubliées et il n'y a rien à dire en fait.
Donc c'est ta faute.
Mais c'est ma faute.
Ou ils les ont pas vues. Enfin, moi c'est mon cas.
Ou ils les ont pas vues. Ou ils les ont, comme moi, ils les ont pas encore vues mais veulent les voir. Et en fait on est tous sur des temporalités complètement différentes, donc le partage il est très compliqué en fait.
Après, je trouve que ça reste toujours événementiel quand ça arrive, en fait. Parce qu'on en parle beaucoup, même si après, on n'en parle plus 4 jours après.
Mais lesquels sont événementiels, là, ces deux dernières années?
Récemment, Fallout, voilà. Récemment, il y a eu le débat autour de Fallout, d'ailleurs, où beaucoup de gens se sont demandé si Prime n'avait pas fait une erreur de marketing à ne pas diffuser la série hebdomadairement, en sachant que ils ont...
J'ai entendu ouais, merde. Ouais,
on a tous entendu
En sachant que ce format n'est pas... Enfin, sur d'autres séries, ils le font, en fait. Oui. Donc,
ouais, mais moi, je suis pas d'accord. Je suis pas sûre que... Enfin, même s'ils avaient diffusé un épisode par semaine, est-ce que vraiment ça aurait perduré dans le temps? Chaque épisode aurait été événementiel?
Alors,
pas
non,
sûr.
Peut-être pas tous, parce que bon, après, il y a 8 épisodes, il y a un peu de filler dans le 3 ou le 4. Ouais. Voilà, bon, c'est un peu chiant, bon, voilà. En revanche, maintenant ils se sont posé la question. Peut-être que c'est une façon aussi pour Prime de dire, bah tiens, il y avait une grosse base de fans, je vous donne tout. Et là, j'ai vu que ça a très bien marché. L'année prochaine, ma saison 2, ça sera un épisode toutes les semaines et rester à la maison. Quoi.
The Bear, ça sera tout d'un coup.
Ouais.
Alors,
moins événementiel quand même.
Ouais.
Aussi.
C'est beaucoup plus niche The Bear.
Ouais, voilà, c'est une série Twitter, mais bon, après en vrai, personne n'en parle. Après, je pense que certains font ça plutôt intelligemment. Notamment Netflix, quand ils ont des séries événements, ils font ça en deux parties. On le voit là pour Bridgerton. Donc, parce que on n'aura plus, aujourd'hui, la consommation fait qu'on n'aura plus, effectivement, je pense, d'événementialisation toutes les semaines avec un épisode hebdo, parce qu'on a tous des rythmes de vie différents, on a tous des façons de consommer de la série différentes. Donc, par contre, ce côté part one, et puis quelques mois plus tard ou quelques semaines plus tard, deuxième partie, ils l'ont fait aussi avec Stranger Things. Ça a permis de relancer la conversation autour, et au moins, ça permet de garder un petit peu.
Un petit peu artificiel, et ils le font de plus en plus pour la série. Moi, c'est la défense Lincoln. Ouais. Ils l'ont fait l'été dernier, et bien en fait ils m'ont perdu entre deux.
Parce que c'est pas des...
Là tu vas encore les perdre avec Karate.
C'est pas assez événementialisé, je pense. Un Stranger Things, tout le monde va l'attendre avec impatience.
Cobra Kai, c'est en trois parties.
Trois parties sur 6 mois, même plus.
Mais en même temps, j'ai l'impression que Cobra Kai a quand même une plus grosse base de fans aussi que la Défense Lincoln, où je vois pas l'intérêt d'avoir coupé la saison en deux.
Ouais, non, juste pour revenir sur ce que tu disais, Hello, sur Fallout, ils ont tout sorti d'un coup, mais The Last of Us.
Oui, c'était un épisode par semaine, mais.
C'est pas la même plateforme,
c'est pas la même plateforme, mais bon, ils ont des exemples en fait qui ont, même si la série était à chier, ils ont des exemples qui ont assez fonctionné quand même.
Bah, Stranger Things, ils pourraient faire hebdo. Hein.
En fait, c'est que ça leur coûte rien. Ça leur coûte rien de faire hebdo parce que la saison sera quand même disponible cette semaine plus tard. On n'est pas sur des saisons de 22 épisodes non plus.
Voilà.
On est sur des saisons 8. Donc tu peux les diffuser hebdomadairement et arriver à la fin, celui qui veut binger, il binge.
Bah, voilà, à qui? Voilà.
Je pense, et alors c'est une pure théorie, mais ils le font aussi pour les chiffres de conso, c'est-à-dire que quand tu sors tout dès le début, en termes de data, tu vas avoir un certain nombre de lectures d'épisodes que tu pourras ensuite balancer derrière pour dire « Ah ouais, il faut qu'on continue ». Alors que quand tu fais ça de façon hebdo, tu perds beaucoup plus les gens derrière.
Oui, mais justement, avec Netflix qui donne un certain nombre de jours pour ses séries pour marcher, bah forcément, les gens comme Olivier ou d'autres qui ne regardent pas tout de suite, bah, ça donne beaucoup moins de chance à cette série-là, d'où les annulations un peu intempestives dès la première saison de Netflix. Et certaines séries, pour le coup, mériteraient...
Il n'y a pas un truc de 28 jours aussi, un truc dans
c'est
les 28
ça, c'est,
premiers
c'est
jours
ça.
Ils ont juste cru que tout le monde bingeait alors que c'est pas le cas.
Après, on oublie aussi que tout simplement, au-delà de la multiplication, on ne regarde plus la même chose parce que on est dépendant de ce que les plateformes vont nous mettre sous les yeux. C'est-à-dire qu'il y a l'algorithme déjà par rapport à ce qu'on a regardé va nous pousser certaines séries et pas d'autres. Donc déjà, c'est pour ça que en fonction de pour le grand public, je parle effectivement en fonction de ce que vous regardez, vous aurez pas les mêmes trucs. Et ensuite, il y a les séries que la plateforme va elle-même mettre en avant. Mais c'est comme ça qu'en fait on en a plein de toute manière, puisque on est dépendant de ce qu'on nous met sous les yeux. Parce que tu disais par exemple que Netflix faisait moins de contenu.
Oui.
Je peux t'assurer que non. C'est juste que ce qu'elle met en avant.
Ah si, ça a été prouvé. Il y a les chiffres qui sont sortis.
Mais c'est parce qu'ils sont passés. En gros, ils sont passés de 4 séries par semaine à 2 ou un truc comme
ça. C'est encore quand même un sacré.
Ah oui, non, je te dis pas. Non, mais je te dis pas que
c'est.
Oui, mais
encore un rythme.
C'est beaucoup plus international.
Voilà, c'est qu'ils sont plus uniquement sur les États-Unis, donc il y a autant de contenu, mais c'est juste qu'ils sont allés toucher le marché sud-coréen, le marché français, etc.
Et après, encore les sud-coréens, ils achètent beaucoup de programmes qui passent en Corée pour les mettre sur la plateforme. Et toi, tu crois, avec ton Netflix à la fin.
Oui, mais
tu crois
ça, c'est
Netflix,
une stratégie, mais pour le consommateur, à la fin,
ce sera
Netflix.
Surveille tes mots, en direct.
Oui, pardon.
C'est vrai qu'il y a aussi une double stratégie, parce que ce que Sarah disait, c'est vrai, parce que quand on regarde même les chaînes de télé françaises, on voit que sur leur plateforme de streaming, ils diffusent tout d'un coup aussi, la plupart du temps.
En payant aussi.
Et forcément payant aussi, mais enfin, ça veut dire que c'est pas une question de plateforme ou de chaîne ou de network ou de. C'est, je pense qu'effectivement, c'est une manière de dire, waouh, regardez, on a fait plein de chiffres. Après, les chiffres, ils sont jamais, on ne sait pas ce qu'ils veulent dire. Parce qu'on ne sait pas si c'est des vues uniques, on ne sait pas si c'est sur toute une saison, on ne sait pas si c'est sur un épisode, on ne sait pas. Enfin, ça ne veut rien dire.
Si c'est vu sur 5 minutes ou.
Quand Arte balance des millions et des millions de vues sur un thérapie, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Sur 30 épisodes en plus. Donc, c'est.
Et puis en plus, ils ont tous une façon différente de comptabiliser les vues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'hégémonie entre les plateformes. Certains vont considérer que les 30 premières secondes de l'épisode, c'est une vue. D'autres vont considérer qu'au bout d'une minute, au bout de 5 minutes. Et donc, effectivement, un Arte qui va dire il y a eu, je sais pas, 5 millions de vues sur la saison, ça se trouve, c'est juste les 30 premières secondes. Et en vrai, il y a 3 pélos qui ont vu en thérapie, quoi. Je pense pas, mais.
Mais en fait, ça montre juste que derrière tout ça, il y a surtout. En fait, la stratégie, elle n'est pas vis-à-vis du public, elle est vis-à-vis des chiffres, vis-à-vis du business. Et en fait, c'est ça que je pense. Alors, il y a toujours eu du business, mais il y a en termes de soucis du spectateur, je pense que c'est ça surtout qui a changé. Maintenant, on est des chiffres. On est des vues et finalement ils s'en foutent de savoir si on a regardé en entier, pas en entier, et je pense que c'est ça qui est le plus dommageable en fait.
Mais du coup c'est intéressant parce que ça montre aussi qu'on a une responsabilité dans ce qu'on va regarder maintenant et que tu vas pas aller encourager des personnes qui ou des projets qui sont mauvais, on va dire.
Ouais, mais regarde, en fait, tout simplement, ils prennent le pas, enfin, ils font ce que fait le cinéma. En fait, le cinéma, une entrée, oui. Une entrée. Hein. C'est-à-dire que le film ait que des mauvaises critiques, ça l'empêchera pas d'avoir un numéro 2 s'il a fait les entrées. Et je peux te dire qu'il y en a beaucoup qui, par exemple, vont aller voir un film parce que tout le monde en dit du mal. Et ils disent, est-ce que c'est aussi nul que ça en a l'air? On va aller voir. Et ça fonctionne. Les séries vont faire pareil. Ils ont aucune raison de pas le faire.
Je pense que ce que je regrette le plus, c'est que avec cette production en masse, on formate vachement les créateurs. Alors peut-être que à la 10e minute, il faut qu'il y ait un rebondissement absolument. Enfin, ce que je veux dire, c'est que dans l'écriture, les producteurs prennent beaucoup moins de risques, d'où le manque de potentielles pépites qui n'existent plus.
Et surtout pour les séries françaises.
En plus, parce que du coup, comme on en produit moins, on veut prendre moins de risques par conséquent.
Après, il y a eu aussi, alors je parle surtout sur la production américaine, un vrai shift dans le sens où la création était aux mains des studios dont c'était le métier pendant des décennies. Et on se retrouve maintenant avec une production qui est faite par des gens de chez Apple, de chez Amazon, qui, en fait, c'est des data analysts qui vont regarder une feuille de papier en Excel et dire « Ok, cette série, on s'en fout des critiques, on s'en fout si le public a aimé, on s'en fout du hashtag Bring Back the OA. Maintenant, ce qui compte, c'est vraiment le nombre de vues et c'est ça qui fait qu'on va continuer ou pas derrière une deuxième saison. Et c'est ça qui est dommageable pour le public. Mais le problème, c'est, comme tu disais tout à l'heure, il y a une responsabilité du grand public de regarder aussi les choses qu'on a envie de soutenir. Mais ça, c'est utopique parce que ça ne se fera jamais, malheureusement.
On n'a pas beaucoup parlé de plateforme, mais moi il y a un truc qui me chagrine un petit peu. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais fait un tweet là-dessus cet après-midi là sur. Il y a des séries, des networks encore américains où à un moment donné ça a inondé nos télés et aujourd'hui on n'en voit quasiment plus parce qu'il faut laisser la place à la française, aux séries françaises. Par exemple, il y a des choses très bien.
Ah oui, The Connors.
Ouais, par exemple The Connors, qui est le spin-off de Roseanne. Enfin, il y a des choses très bien qui passent encore à la télévision. Dans les autres pays qui n'arrivent pas chez nous, et ça aussi, c'est,
oui, ça, c'est normal. Triste, tout plat. Ça, non, c'est culturel.
Ça, c'est les audiences françaises.
Oui. Hein, non, je suis d'accord.
Tout ce qui est étranger qui marche pas là maintenant, la fiction française marche beaucoup mieux à la télévision française que les séries.
Oui, mais
US,
je suis désolé si c'est pour moi de diffuser Mademoiselle Holmes et la recrue.
Oui, mais il y a tout autant de merde sur la télévision américaine. Hein,
oui, je suis d'accord, mais si on pouvait essayer d'avoir. Ou alors il faut que les plateformes.
Tu vas sur Arte, France 2, enfin il y a des bonnes séries, c'est juste qu'on a une production qui est moins grande, donc forcément.
Et t'en as encore toutes les semaines, t'as de la production française.
Le truc c'est qu'avant c'était. Ces séries américaines un peu de niche, en fait. On savait où aller les chercher en fait. C'est-à-dire qu'on allait les voir sur Canal Jimmy, sur. On avait des chaînes.
Elles arrivaient malgré tout quoi.
Il y avait des chaînes qui étaient spécialisées là-dedans. Et en fait, maintenant, on ne sait pas. En fait, moi, des fois, il y a TF1 Plus qui balance des trucs sur sa plateforme. Bon, honnêtement, je ne sais pas, je sais pas que c'est là. Et en fait, je m'en aperçois, je ne sais pas comment, et je me dis, ah, oh, c'est cool de voir ça. Mmh. Donc, c'est moi, je trouve que c'est aussi un manque de communication,
de lisibilité.
Après,
clairement, on ne sait plus où aller chercher les choses.
Après, c'est parce que vous ne regardez pas où ils communiquent, parce que pour bosser à la télé, moi, je vois que par exemple à la télé, il y a des bandes annonces pour les séries qui arrivent sur TF1+, sur M6+, sur les plateformes françaises.
Je veux dire que parce qu'on regarde pas la chaîne en elle-même, on le voit pas.
Après, il y en a sur
Amazon là en ce moment.
Non, mais si tu regardes pas TF1 Plus de base, tu verras pas. C'est pareil, tu vois. Si tu regardes Netflix, en effet, comme il disait, les algorithmes font que ça va popper et tout ça.
Okay. Ah, mais du coup, c'est une stratégie un peu contre-productive. Ouais, c'est-à-dire que quand tu lances une plateforme sur un exemple TF1 Plus ou même un M6 Plus qui va arriver là, si tu fais exclusivement de la communication auprès de ta propre communauté sur la chaîne télé en linéaire ou alors en catch-up sur les précédentes. Tu vas pas aller chercher.
Ils vont faire un petit peu sur les réseaux sociaux, mais c'est très peu. Et maintenant, il y a plus. C'est plus sur les chaînes de télé parce que les séries plus exigeantes.
C'est moins en termes de communication qu'en termes de ligne éditoriale en fait. Je ne comprends plus la ligne éditoriale de plus rien en fait. C'est-à-dire que Netflix, ils font de tout. Je sais pas quelle est leur ligne éditoriale. TF1 Plus, je comprends pas leur ligne éditoriale. Les chaînes de télévision, je sais pas. Avant, je savais qu'il y avait des choses où je me disais, tiens, telle série américaine, il y a des chances pour que ça se retrouve sur telle chaîne. Maintenant, j'en sais rien, en fait. Ça arrive sur une chaîne où je me dis, mais qu'est-ce que ça fout là? Et en fait, je pense que globalement, que ce soit en plateforme, en télévision, les networks, c'est un peu différent parce qu'ils sont perdus, mais je pense qu'ils ont bazardé la ligne éditoriale et en fait ils font de tout et au point que nous on finit par plus s'y retrouver forcément. Et pourtant il y a des choses bonnes, hein, mais le problème c'est qu'on ne sait pas où les chercher.
C'est le but parce qu'ils cherchent le plus de public possible.
Et sur la production française, moi je trouve que les lignes éditoriales elles sont plutôt claires entre TF1, France 2,
mais en linéaire.
Arte, voilà, en linéaire, oui. Par contre, c'est vrai que dans les achats de séries, de ce qu'ils proposent d'ailleurs, c'est le bordel complet.
Mais parce que c'est la guerre au droit, en fait. C'est la guerre à celui qui a le plus de volumétrie. Aujourd'hui, en fait, ils ont une façon de communiquer en vous disant, chez nous, vous trouverez tout pour toute la famille. C'est-à-dire que tu pourras trouver pour mamie, pour maman, pour le gamin de 7 ans, pour machin. Sauf qu'au final, comme dit Olivier, il n'y a aucune ligne éditoriale. On retrouve très souvent les mêmes programmes aussi en croisée chez plusieurs plateformes différentes. Et là-dedans, j'inclus aussi des Netflix et des Amazon, etc. Pour des séries on va dire assez classiques. Et je pense que c'est aussi parce que, et quand on va voir là l'arrivée de HBO Max qui va lâcher d'ailleurs la marque HBO, c'est la plateforme, c'est Max, on a complètement laissé de côté HBO, il y a plus du tout de positionnement on va dire quali là-dessus, parce que ce qu'ils veulent c'est parler à tout le monde. Et là où je pense, comme je disais tout à l'heure, c'est que on va arriver par un espèce d'éclatement de cette bulle, c'est que ils veulent s'assurer que chacun s'abonne à leur plateforme, parce qu'ils disent, ok, nous on a tout, venez chez nous. Sauf que je sais plus qui disait tout à l'heure, on peut pas s'abonner à tout. Et moi je pense qu'on va commencer à avoir un retour du piratage justement, et du téléchargement illégal qui a commencé à reprendre un petit peu, parce que en fait c'est sympa de pouvoir s'abonner à tout.
Amazon Fallout, c'est comme ça que ça a recommencé.
Alors regarde aux États-Unis, du coup ils ont commencé à y faire t'as un bundle qui, du coup, avec Disney et Max, qui vont faire un partenariat cet été,
Oui, il suffit de voir. En France, on a Canal qui est agrégateur pour absolument tout le monde.
Canal, pour le coup, c'est en ce moment, c'est rentable.
C'est très rentable pour les gens qui, effectivement, aujourd'hui, c'est 38,99 pour l'abonnement avec quasiment toutes les plateformes. Max va être inclus. Alors, sur des abonnements qui sont le minimum syndical, en termes d'écran et de HD, etc. Mais Canal, au fur et à mesure, retire de sa propre offre d'autres choses en parallèle. Donc, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on pense avoir un package de ouf. Et au final, pas tant que ça. Parce qu'après, il faut rajouter à chaque fois 5 euros par-ci, 3 euros par-là pour une nouvelle option. Et je pense qu'on va atteindre à un moment un plafond, quoi.
Mais est-ce que ça va être, ils vont gagner de l'argent à un moment donné, ou est-ce qu'ils vont pas faire comme les plateformes, investir beaucoup Canal et finalement augmenter les prix?
Le but chez Canal, c'est qu'en 2030, ils deviennent la top 5 plateforme de streaming, en fait. Nous, c'est ce qu'on a reçu là dans les mails en janvier. Et c'était pour
dire, mais en tant qu'agrégateur,
en tant qu'agrégateur, mais aussi en tant que créateur, etc. Et du coup, c'est pour ça là qu'ils ont racheté le plus grand truc de plateformes en Afrique. Ils ont mis 1 milliard dedans pour pouvoir avoir toutes les chaînes, en Afrique. Et du coup, avoir le plus grand agrégateur. Et du coup, c'est pour ça qu'ils rajoutent. Dès qu'il y a une plateforme qui arrive, et hop, salut, Max arrive. Ok, on est le premier à vous dire que Max est là et que vous l'avez dans notre abonnement. En fait, c'est comme ça.
Le problème, c'est que c'est leur truc. Même si on résout avec ça le problème financier, il y a le problème de temps. Enfin, c'est-à-dire que là, moi, tu vois, Max, ils me disent vous allez avoir Max, mais en fait, je me dis, mais. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? En fait, j'ai pas le temps, je peux pas, j'ai déjà pas le temps de regarder tout ce que j'ai sur toutes les plateformes. Vous allez me rajouter un autre truc que je vais pas regarder en fait.
Donc, t'arrêtes de regarder Secret Story et tu trouveras le temps.
Toi aussi, tu regardes Secret?
Non.
Merci, je me sens Marcel.
Le pire, c'est qu'avant, je regardais la télé et j'arrivais quand même à suivre les séries. Maintenant, j'ai même plus le temps de regarder la télé.
Mais le truc, c'est que là, au moins, s'ils te mettent Max dans une seule plateforme, t'as pas à aller chercher autre part. En fait, c'est le but du jeu. C'est Amazon, c'est ce qu'ils font, et Canal+, ils se sont dit, bah, en fait, c'est très facile de faire pareil, on le fait. Et du coup, en France, les gens, ils disent, alors, c'est vous qui a toutes les séries, j'ai pas envie de m'emmerder avec tous les abonnements, Canal+. Et en plus, on a d'autres trucs que les chaînes proposent. Du coup, c'est leur stratégie à eux. Et c'est une stratégie qui va fonctionner.
Oui, oui, elle est pas mauvaise.
Oui, mais du coup, ça revient. Enfin, c'est pas la réponse au débat, c'est est-ce qu'on va s'en sortir quand même? Même si Canal agrège tout, mais il faut quand même trouver la série dont tout le monde va parler.
Oui, bah alors ça,
c'est après, c'est à eux de faire la pub peut-être.
C'est comment s'en sortir, c'est chacun fait comme il veut. En fait, chacun regarde ce qu'il veut.
Est-ce qu'on n'est pas.
Il va y avoir un problème aussi, c'est que au niveau de la personnalisation et au niveau de la recherche, typiquement, Canal, c'est de la merde. La recherche, leur personnalisation, c'est de la merde. Et ça, c'est le truc le plus important qu'il y a à faire dans les années à venir, c'est pouvoir bien donner la bonne série à la bonne personne. Et ça, France Télévisions aussi, ils sont à fond dessus pour travailler dessus. Mais ça va être le plus important, comme tu dis.
Mais Canal, ils sont bons en linéaire sur ça, pour le coup. Enfin, dans leur
création.
Mais
leur but, c'est qu'ils aient plus de linéaire, limite. En fait,
ça a toujours été secondaire pour eux. Mais je veux dire, dans ce que eux, quand ils créent une série ou qu'ils achètent une série, c'est très dans leur ligne édito. Donc pour moi, c'est le public Canal, tu vois, très CSP+.
Ouais, mais en fait, c'est des séries qui sont capables d'aller chercher des mecs de TF1, de...
Oui, oui, mais c'est aussi un peu leur but, mais l'instant, je trouve qu'ils sont quand même très cohérents dans ce qu'ils font.
Ah oui, non, oui, ils sont très cohérents.
Après, l'idée de ne plus avoir de linéaire, c'est assez bizarre, parce que les plateformes américaines, ils reviennent vachement...
Mais c'est pas de plus en avoir, c'est juste que c'est pas leur objectif premier.
Leur objectif premier.
Ouais, mais ils vont s'apercevoir qu'en fait, c'était bien il y a 10 ans, en fait. Ouais, mais stratégie là et puis en fait
oui mais en fait dans le non linéaire en fait tu peux très bien faire une grille de programme mais qui n'est pas diffusée en direct ou qui n'est pas diffusée en fait c'est pour ça que Canal il crée des chaînes à la volée et tu vas en avoir de plus en plus. Ils vont créer là typiquement à la rentrée des chaînes de sport, ils en créent 7, ils le font couf, hop là, puis ils peuvent créer un cinéma série
en 27.
Ça leur permet surtout de fragmenter leur offre interne et de vendre des abonnements différents. Et du coup, effectivement, comme disait Sarah, le problème c'est que les programmes, quand on prend Canal+ pour Canal+, c'est assez insupportable parce que t'as des programmes qui d'un coup se retrouvent sur une autre chaîne que t'as pas dans ton abonnement. Et là, tu pètes un cap parce que t'es là, tu fais putain, j'ai payé Canal+, et en fait, je me retrouve avec Netflix, Amazon, machin, et le truc que je veux voir, il est sur une autre putain de chaîne.
Ouais, ça c'est chiant.
C'est vraiment là.
Je me suis fait avoir pour Scrubs. J'étais sur je scrollais là comme ça pour essayer de trouver un truc rapide à regarder. Je clique dessus et en fait c'était sur Disney+, et j'ai cru que j'allais jeter ma télécommande sur la télé tellement ça m'a saoulé.
Amazon fait ça hyper mal fait. Enfin, c'est hyper mal fait. J'ai envie de voir le truc, fait ah, Universal. Va te niquer.
Pour le coup, juste pour toutes les plateformes de chaînes françaises, donc MyCanal ou TF1+, M6+, enfin toutes leurs plateformes, à part pour Slash de France Télé. Il n'y a aucune création faite pour les plateformes. Ils diffusent d'abord tout en linéaire avant de... Parce que ça coûte trop cher de créer juste pour ces plateformes-là. Et...
Peut-être pour l'instant. Peut-être que
TF1+, ils ont clairement dit que ça arriverait pas.
Enfin... Ah bah, M6, par contre, je pense qu'ils ont prévu de créer des programmes spécifiquement, puisque le
des
journal...
Trucs courts, hein.
Bah,
du cours, ouais. Et puis même les trucs là du journal, du Gorafi, etc., ça va être exclusivement pour la plateforme. Et je sais qu'ils sont en recherche de créateurs de contenu pour justement alimenter la plateforme.
Mais pas en fiction, justement, ça va être du contenu. Ils vont créer du contenu, ils vont plus créer de la série.
C'est-à-dire qu'ils vont faire les trades version. Alors, je sais pas si ce sera que sur M6+, mais les trades version influenceur, youtubeur, je sais pas quoi. Potentiellement, ça sera que sur M6+, mais. On sait jamais, ça sera peut-être diffusé en deuxième ou troisième partie de soirée aussi.
Si ça marche, pourquoi pas faire basculer aussi.
Oui, non, mais le but, c'est que ça soit un complément aussi de la chaîne.
Okay. Et c'est marrant parce qu'en fait, le débat, il est assez symptomatique de ce qui est devenu le monde de la série. C'est-à-dire qu'on parle de plateforme, on parle de chaîne, on parle de network, mais on ne parle pas de série.
Oui.
C'est...
Non, mais c'est vrai.
Bon, où on trouve les bonnes séries, finalement
c'est... Apple.
Partout. Vous en Amérique.
Bah, je trouve qu'effectivement Apple TV+ a, dans son rythme de production, dans son, je trouve qu'au moins il y a un truc un peu cohérent dans ce qu'il propose. Et par exemple, je sais qu'en termes de comédie, maintenant quand j'ai envie de voir des comédies sympas, bah je vais plutôt me tourner vers Apple que vers Netflix. Et je trouve que c'est eux qui sont un peu les plus cohérents dans ce qu'ils font.
Le choix des comédies reste assez limité quand même sur chez Apple. Ouais. J'allais plutôt dire des séries de genre, enfin de science-fiction. En tout cas, j'irais sur Apple, par exemple.
Il y a quand même un petit catalogue de comédies. Ouais. Après, je pense que c'est justement parce que eux ont une stratégie complètement différente de Netflix et d'Amazon, ou en tout cas de Netflix sur la. En termes de production et de quantité, ils veulent rester sur l'image Apple, des choses très quali, très chiadées, avec
de jolis noms.
Voilà. Et d'ailleurs encore avec une grosse production de studio derrière, parce qu'ils achètent aussi beaucoup de séries coproduites par les studios et qu'on sent quand même encore la marque qualitative, ce qui n'est plus le cas. C'était le cas pour Netflix au tout début. Hein. Première série, c'était quand même House of Cards, c'était une série Sony qui du coup est arrivée sur la plateforme. Et puis après, ils ont commencé à faire leur propre truc et c'était un peu plus pourri. Mais
là, il faut quand même qu'ils fassent gaffe parce qu'ils sont en train d'accélérer. Je suppose que c'est pour que le catalogue soit un peu fourni pour créer de l'abonnement. Hein, mais là, ils sortent 3 séries cette semaine.
Apple ?
Ouais. Ça fait quand même un peu beaucoup.
Oui, il y a
pour,
du mercredi et du vendredi. Voilà. Il y a quand même 3 ou 4.
Et bon, quand je suis parti en vacances, je reviens, il y avait 5 ou 6 séries Apple qui étaient sorties et j'étais là, je sais absolument pas comment faire mon choix parce que bah,
il faut pas partir pendant 6 semaines aussi. Voilà.
Après... 2, ça va.
Donc, est-ce qu'il est encore possible de faire des séries cultes qui plaisent à tout le monde ?
Ça malheureusement, je pense que c'est.
Tu peux pas le savoir maintenant.
Moi
pas de grosse série. Quoi.
Non, mais moi, je pense que c'est pas possible ça. On est, enfin, va y avoir des séries qui vont popper un petit peu, mais j'ai l'impression que la dernière grosse série qui aura réussi à faire ça, c'est Stranger Things.
Parce que Netflix.
Ted Lasso, moi, je pense.
T'as dit quoi?
Moi aussi j'allais dire This Is Us parce que je trouve que déjà Stranger
This
Things.
Is us,
This Is Us,
il
n'y
a pas marché
en dehors des cercles.
Non, en France, ça n'a pas. Enfin, grand public, diffusion hertzienne, ça n'a pas marché.
Stranger Things, c'est déjà personne n'a vu This Is Us. Pour moi. Et tout le monde n'est pas intéressé.
Non, mais tout le monde a Netflix, entre guillemets.
Pour moi, désolé, mais la dernière série dont tout le monde vraiment parlait, c'était Game of Thrones.
Il y a eu Last of Us.
Non,
c'est pareil.
Non, mais. Niveau marketing, pub, tout ça, on en parlait partout. Après, oui, dans mon.
Tout le monde l'a vu. The Last of
Us. Je parle de ça. Vraiment, tout le monde a vu. Et The Last of Us, c'est pas le cas.
Et tu dis marketing, mais le marketing ne fait pas une série culte. Hein. On a eu du marketing sur plein de choses.
C'est pas ça, mais ça permet au grand public ensuite de l'avoir.
Ça amplifie quand même.
Il faut quand même que les gens regardent, quoi.
Le marketing, si ça marche pas, c'est que le public.
Oui, mais regarde le marketing qui est mis autour de Marvel actuellement. Leur série, elle bide, leur film, il bide. Parce que le marketing ne fait pas tout et ça n'a pas intéressé les foules, en fait. Enfin, il y a aussi encore le bouche à oreille, même si ça a plus l'importance que ça avait avant. Mais il est encore important.
Oui, mais hors Netflix, je pense pas qu'il y ait une série qui puisse toucher beaucoup de monde. Parce que tout le monde a Netflix parce que première plateforme.
Après, ça dépend.
Voilà, mais...
Toucher beaucoup de monde. même à l'époque, ça n'a... Enfin, on ne touchait pas tout le monde. Tu touchais uniquement une partie de l'audience que tu
captais. Oui, mais c'était ouvert à tout le monde. Tout le monde pouvait le voir.
Oui, mais c'est pas parce que tout le monde peut le voir que du coup, ça en fait un statut culte. C'est aussi ça la différence. Regarde, un Véronica Mars, tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est culte ou pas ? Bon, la majeure partie des gens autour de la table ont dit oui, mais c'est pas une série que beaucoup de gens ont vue au final.
Ça a pas marché.
C'était
ça
culte
pas marché.
À quel moment, en fait ? Parce que c'est pas que...
Et est-ce que c'est devenu culte avec avec le temps, avec les années ? Exactement.
Ah bah à l'époque, ça n'y était pas du tout, Véronica Mars. Ça n'a pas marché. Enfin, c'est une petite chaîne.
Culte, toujours laisser du temps.
C'est dans le cadre
ça,
de la...
Ça, non, mais... ça dépend si on dit culte parce que les gens en gardent un bon souvenir, mais ils ne sont pas forcément nombreux, ou si on dit culte parce que c'est une série qui a été un événement et que tout le monde a vu, dont tout le monde a parlé. C'est pas la même chose, en fait. Bah. Ça dépend ce qu'on entend par culte, en fait.
Culte, pour moi, c'est parce que ça a eu un impact culturel majeur. Par exemple, Véronica Mars, ça en a eu un. Il y a eu des références dans nombre de films, nombre de séries sur cette série, sur ce personnage et autour de l'actrice, qui sont indéniables. Buffy, c'est la même. Charmed, même si on n'est pas d'accord avec la qualité de la série.
Dans Charmed, un peu plus que Véronica Mars.
Dans ces cas-là, si on parle de ce culte-là, à ce moment-là, je pense qu'il y a des séries qui changent encore des manières de voir. Enfin, moi, je pense que Sex Education est culte pour la nouvelle génération. Et pour
C'est un impact qui est différent. Et puis, c'est très générationnel. Oui. Effectivement, Charmed, oui, c'est culte pour une certaine génération. Oui. Pas pour l'autre.
Mais en même temps, il n'y a pas quelque chose de culte qui englobe toutes les générations.
Oui,
ça
oui,
n'existe
bien
pas.
Bah,
là, faut se tourner vers le sport.
Ça n'existera plus.
Le rebelle.
Non, ça n'a jamais existé quelque chose de culte, à part peut-être un Titanic à la grande limite. Mais une
Friends.
Série...
C'est
un Friends. Non, mes parents, ils s'en fichent royal de Friends.
C'est une question de génération.
Oui, c'est une question de génération.
Oui, mais après, je dis pas que ça touche
le culte,
que tout le monde connaît. Tu parles de Friends, au moins ses parents connaissent.
Mais pour moi, culte, c'est dans la pop culture. Est-ce que ça a touché ? Mais ce sera
Friends
toujours en effet.
Dans la pop culture.
Oui, mais ce sera de la génération.
Est-ce que Game of Thrones est dans la pop culture ?
Oui.
Bah oui.
Mais pas celle de
dans quoi ?
Pas celle
de nos parents, ils regardaient pas de séries.
Mais dans la pop culture de nos parents n'est pas la nôtre. Ou alors on l'a récupéré, on en a fait autre chose.
Parce que Game of Thrones, on n'en parle plus.
À chaque fois qu'il y a un débat comme ça, ils te disent Game of Thrones.
Bah oui, mais on va te dire non.
Je pense que si tu vas interroger les gens dans la rue pour leur demander selon eux c'est quoi
mais
la,
oui, mais
la, c'est, la
ça va être des réponses lambda parce qu'ils ont vu que ça et que pour
mais
eux c'est que ça.
Non, je pense pas que c'est déjà ça.
C'est comme dire à la meilleure série, ils vont dire Breaking Bad parce qu'ils ont vu que ça.
Tu as donné la réponse en fait, tu as dit ce serait une réponse lambda parce que les gens n'auront vu que ça.
Bah oui.
T'as répondu du coup, tout le monde a vu ça.
Bah oui.
Pourquoi nous on dit Friends parce qu'on l'a vu enfin,
ça ne veut pas dire que c'est une référence.
Ah oui, non, ça,
d'accord. Non, mais voilà.
On revient sur la définition du mot culte, où effectivement, pour toi, oui, The Wire, c'est culte.
C'est pas forcément.
Pas du tout.
Qui a vu The Wire autour de cette table? Pourquoi c'est pas culte, The Wire?
Il y a une différence entre très bonne série et une série culte.
Oui, d'accord, mais du coup, pourquoi c'est pas culte?
Il y a aucune référence de la série que moi je connais qui se retrouve ailleurs. Et qui n'a, bon, elle a influencé peut-être des séries, mais c'est pas quelque chose, c'est pas, elle est pas grand public. Il y a pas de gimmick, il y a pas de
référence. Donc, les références
pas...
que toi tu revois, le fait que ce soit grand public, le fait que ça influence d'autres séries, est-ce que Game of Thrones se retrouve dans ces trois critères-là?
Oui.
Pourtant, tu disais tout à l'heure que c'était pas culte.
On verra avec le temps, comme.
C'est déjà le cas, alors que
c'était en cours de diffusion.
C'est la dernière série fédératrice.
Ouais. Là, je suis d'accord.
Oui, exactement. Grace, quand même,
t'as toutes les plateformes qui essayent justement d'avoir leur Game of Thrones encore.
C'est culte, ça reste même HBO.
Regarde, quand ils ont vendu. C'est Fallout, les showrunners de Game of Thrones?
Non, c'est le problème.
Tout le monde a dit, ah bah oui, bah si ça se termine comme Game of Thrones, c'est pas la peine. Donc tu vois, t'as une sorte de déjà d'avis négatif.
Là, on parle de Lost, on parle de Friends.
Non, mais ça.
C'est toujours pareil, là, tout le monde te dira, enfin, c'est nul.
Ah ouais, Ahmed, ouais. Ça s'est très mal terminé.
Avec le temps, les fins nulles ont tendance à s'atténuer pour revoir la globalité de la série.
C'était la première réflexion que tu avais sur la fin de là, alors qu'elle est très bien, mais le truc, c'est que c'est du bouche à oreille.
C'est la
bête. Et du coup, est-ce que Stranger Things va perdurer niveau culte?
J'espère pas.
Outre le succès.
Peut-être pas. Je trouve que c'est culte aussi.
Ça crée un univers, ça crée des codes.
Disons que c'est compliqué de devenir culte quand la série elle-même s'inspire déjà tellement d'autres trucs avant elle.
Et puis qu'elle revient tous les 4 ans en plus.
Elle en fait son propre truc.
Mais par contre, à demander à ceux qui regardent dans quelques années. Est-ce que vous vous souvenez de tous Stranger Things? Est-ce que vous avez revu? Est-ce que ça a eu un impact?
Mais le passage du temps sera crucial pour énormément de séries, hein, de toute façon.
Oui, bah, ne serait-ce que dans le revival des années 80, ça a eu un impact, Stranger Things.
La première saison, oui, mais...
Dès que ça a du succès, on dirait série culte, mais ça n'a rien à voir.
Game of Thrones, on se souvient surtout des Noces Rouges, on se souvient surtout des chocs des premiers épisodes, mais après ça.
Moi je me souviens de la fin de merde.
Dans le micro, c'est ça aussi qui est super intéressant dans les séries cultes, c'est qu'il y a des moments que tu garderas toujours. The OC, c'est culte parce que il y a des épisodes qui sont, mais enfin, j'allais dire monumentaux, c'est pas, ça dépend du point de vue de chacun, mais qui ont marqué vraiment la télé. Oui. Bon, après, c'est la télé qu'on regardait, nous, et aujourd'hui, est-ce que maintenant c'est possible? Je suis
c'est
pas
sûr. C'est parce qu'il n'y a plus ces rendez-vous, il n'y a plus ces moments de partage dont on a parlé et dont on continue de parler derrière. Stranger Things, l'impact sur la musique qu'a eu la dernière saison, c'est monstrueux. C'est-à-dire que pour les gens qui ont TikTok, il n'y avait que des références de jeunes de 10, 12, 13 ans qui reprenaient, qui écoutaient Metallica, qui écoutaient Kate Bush. Les chiffres sur Spotify ont explosé et c'est un véritable impact pop culture, en fait.
Comme One Tree Hill à l'époque.
Oui, ou Grey's exactement. Ouais.
Est-ce que finalement la série est devenue banale? Dans le sens où... C'est comme un peu les films, voilà, ça sort toutes les semaines et on prend ce qu'on doit regarder et on passe à un autre film.
Bah oui.
Et moi, là, on passe à une autre série.
Ouais, il a raison.
Parce que les films se sérialisent, les séries deviennent des événements ponctuels comme les films, et les séries se franchisisent, si je peux dire.
Ouais.
Il y a eu, c'est Variety, non, c'est Hollywood Reporter qui a fait un article sur les franchises.
La Peak IP, maintenant ça s'appelle.
Et on parle de moins franchiser les films parce que ça, il y a eu une fatigue. On va dire, bon, plutôt les super-héros et les suites. Mmh. Donc est-ce qu'on n'insiste pas à un changement Est-ce que la série va devenir comme le film?
C'est-à-dire
que...
Je ne suis pas sûre qu'il y a moins d'IP sur les films, hein, parce qu'ils le redisaient encore avec Barbie, que justement ils allaient chercher des IP pour les transformer en film aussi, les adapter en film aussi. Oui. Donc je pense que c'est juste l'ère de l'IP, effectivement, plus que... Enfin, que ce soit en film ou en série.
Après, et dans la... C'est des nouvelles choses aussi, parce que si c'est des vieux trucs comme DC ou Marvel, ça m'étonnerait que ça refonctionne aussi bien que...
Oui, je pense que c'est surtout l'IP super-héros qui est dead, mais là, on revient sur quand même des franchises et des nouvelles franchises. Et je pense qu'en série, c'est pareil. Je crois que c'est Amazon qui, enfin, Prime Video, qui vient de signer un accord, justement, avec des éditeurs de livres pour pouvoir travailler au maximum. Parce que là, on a vu les Bridgerton, les
Maxwell,
le nombre, et Canal aussi a fait ça.
Plusieurs,
l'avènement vraiment de la littérature, justement, en reprise. Donc, la jeunesse, la romantaisie, la dark fantasy, etc., qui explose.
Dark
romance, non, mais vraiment, c'est. Mais il faut ça. Enfin, déjà, dans le monde de l'édition, c'est monstrueux. Et du coup, là, on voit que ça commence à avoir un vrai impact aussi en termes de production série. Enfin, il suffit de voir, hein, Bridgerton, il y a déjà eu un premier spin-off qui a tout aussi bien fonctionné, je crois. Donc, c'est des choses qui continuent. Et ce qui est intéressant, c'est que. On arrive aussi, bon, Barbie, Transformers, etc., c'est des IP, bon, c'est des jouets, quoi. Là, on arrive quand même sur des adaptations d'œuvres littéraires qui sont quand même travaillées, etc. J'espère que ça redonnera un petit souffle créatif quand même aussi à la production. En tout cas, moi, je suis personnellement plus intéressée potentiellement de voir une série qui est adaptée d'un livre plutôt que par... Polly Pocket, là, c'est ça me touche au cœur, donc j'irai quand même. Mais qu'un truc sur le Uno, quoi.
Le retour d'Harry Potter.
Ça arrive aussi. Oui.
Et voilà, les séries, en série,
ouais,
exactement.
Encore, faut qu'ils fassent une saison par an, parce que sinon, les acteurs vont grandir comme des malades. Et...
En fait,
Harry Potter, c'est trop facile, en fait. T'as déjà les films qui ont super bien marché, t'as déjà ton public.
Oui, mais t'auras
l'élément
de
public,
comparaison.
De moins en moins.
T'auras la comparaison, et puis.
Ouais, et puis attention.
Là, tu es en train de dire, ça vient d'arriver. Non, c'est surtout que ton public, tu vas l'avoir par rapport au film.
Mais c'est
ouais,
le but,
mais
hein.
Les Animaux Fantastiques, ça s'est quand même bien planté. Ouais. Pourtant, le public était là. Donc, je pense que le public peut être aussi beau.
Bah justement.
Oui, moi aussi.
Mais les gens ont aussi lu Les Animaux Fantastiques.
Ah non, sans ça. Voilà. Non, je pense aussi. Bon, c'est J.K. Rowling, c'est un autre sujet, je pense. Et après, les chiffres sont faramineux. Justement, tu parles d'adaptation littéraire, mais je crois que les chiffres, c'est un truc du genre 70% des prochaines séries sur l'année prochaine sont. Il y a 70% d'adaptation littéraire. Ce que je trouve, ok, ça fait découvrir d'autres œuvres à un autre public. En revanche, je trouve qu'on tourne un petit peu en rond quand même. Hein. Donc, il n'y a plus de nouveautés, ça veut dire.
Après,
ça veut dire. Voilà.
Question bête, mais est-ce que ce chiffre d'adaptation, ce n'est pas aussi parce qu'il y a eu la grève des scénaristes?
Ah, donc, ça veut.
Du coup, à mon avis, ils se sont dit, bon, c'est plus facile.
Moi, je pense que c'est juste la mode.
S'ils faisaient la grève, ils ne réécrivaient pas les livres.
Le chiffre, je le dis un peu à la légère, je ne suis pas sûre.
Non, c'est plus facile à adapter.
Bah, puis maintenant, en plus, c'est. Et dans le cercle de la publication, enfin le milieu de l'édition, maintenant tu penses déjà aux droits. Voilà, le livre n'est même pas sorti, qu'il est déjà vendu à des studios. Donc en fait, clairement, même dans les maisons d'édition, il y a des directives pour que la chose soit adaptable. Donc c'est aussi peut-être là le problème, c'est que si eux s'y sont mis, peut-être que la production, enfin la qualité va baisser aussi au niveau des bouquins. Et on va dire, oui, adapté de ça ou ça, mais si c'est écrit par. J'allais dire un nègre, mais je sais plus s'il y a un autre mot maintenant. un prêt-plume. Si c'est écrit par un prêt-plume, est-ce que ça a vraiment un intérêt de passer par le livre, en fait? C'est juste un scénario, dites-le, c'est pas grave.
Oui, en fait, il manque des showrunners et il y a plus que des gens qui adaptent, quoi. Voilà.
Mais après, je disais en termes de qualité, après, sur la littérature jeunesse et la romantaisie, en l'occurrence, on est déjà bien, bien bas, quoi. Donc... si il faut encore baisser.
Comment?
Tu as bien aimé en fait la série?
Ah non, absolument pas. C'était catastrophique, non.
Ouais, enfin, je trouve que c'est un peu les deux parce qu'on, du coup, comme aujourd'hui la littérature jeunesse aborde quand même des sujets que il y a 15 ans nous on n'avait pas. Typiquement Love Victor, Heartstopper, je pense qu'il y a 15 ans on n'aurait pas eu ça. Et c'est des livres relativement récents tous les deux quand même. Donc ouais, enfin. Si ça permet d'avoir une... Bon, je vais dire le mot. Si ça permet d'être plus woke, voilà.
Voilà. Honte à toi.
Moins woke.
Mais est-ce que c'est pas une tendance, justement, les adaptations, une tendance facile comme pour les films, on va dire, on va jouer sur les IP. Mais est-ce que, du coup, les prochaines bonnes séries originales, c'est impossible?
Si, mais sur les Network.
Non, oui. Enfin,
ah, c'est pas très original.
Partout, mais c'est faut juste.
Chicago Bleach, Chicago Fire, Chicago New York.
Hawaii aussi. Il y a des pépites, mais c'est très difficile de les découvrir en fait. C'est ça qui est compliqué. Moi, j'ai regardé une série qui s'appelle Reservation Dogs sur FX, qui est sublime. J'en aurais jamais entendu parler si ça avait pas été du bouche à oreille, vraiment du milieu, etc. Et je pense qu'on est peut-être 8 en France à avoir regardé cette série parce qu'elle est cachée dans le catalogue Disney Plus.
C'est ça.
Comment?
On est déjà 4.
Voilà. Bon. Les 4 autres. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même de belles choses qui sont faites, qui et sont cachées. Créées, mais qui sont cachées et auxquelles on n'a pas accès. Et il y a autre chose aussi, moi, que je trouve assez intéressant, c'est que j'ai découvert récemment qu'il y avait tout un catalogue caché chez Netflix quand on change la langue de base de l'accueil. Quand on se met en VF, on va avoir que des contenus qui sont dispo en VOST, VF, etc. Et quand on se met en VOVO, bah, on a tout un catalogue aussi de séries. Alors, c'est surtout du stand-up, c'est surtout des émissions comme ça qui sont pas du tout doublées ni sous-titrées. Et j'espère que ça permettra aussi à la production, en tout cas internationale, de nous mettre à dispo des choses qu'on pourra découvrir, même si c'est pas sous-titré, en fait. Parce que je pense qu'il y a peut-être des choses aussi à côté desquelles on passe, parce qu'il y a des frais de sous-titrage qui sont quand même aujourd'hui encore très, très, très chers, et du coup, ils prennent pas le temps de se dire, on va le mettre à dispo à l'international.
Le sous-titrage va coûter bientôt plus rien du tout. L'IA est en train de prendre sur toutes les sociétés de production.
Oui, oui. Bon. J'ai pas envie de penser à ça encore.
Mais est-ce qu'on pourrait pas justement, grâce aux chaînes françaises aussi, qui pourraient peut-être miser un peu plus sur des séries qu'on ne voit pas hors plateforme?
Et elles le font.
Bah
Arte a toujours met toujours en avant des séries.
Mais est-ce que c'est pas Arte que viendra le salut? Je ne sais pas.
Non, mais il faut pas attendre.
M6 ou TF1, est-ce qu'ils peuvent acheter le nouveau Urgence, Nouvelle Express, le nouveau Charme?
Ce que fait TF1, tu le vois pas forcément sur les plateformes en fait. Ils ont un truc spécifique à eux. Je dis pas que c'est de la super bonne qualité, mais les comédies policières, c'est leur truc et t'en vois pas forcément sur.
Non, mais je parle d'une série qui peut marcher et qui peut devenir un phénomène entre guillemets.
Bah HPI.
Ouais. La réponse ne me plaît pas, mais HPI, c'est un phénomène. Hein.
Oui,
les Américains l'adoptent.
Voilà, adapté aux États-Unis.
Et quand tu vas à Cerimania, tu vois plein de nanas qui sont déguisées.
Et les quotidiennes aussi.
Et pareil pour les quotidiennes, oui.
Et les quotidiennes aussi, évidemment.
Mais déguisement des quotidiennes?
Non.
Mais par contre, moi, j'étais à la diffusion de Le Monde est à nous, donc avec Nini Schneider, et il y avait énormément de monde. Donc les séries françaises attirent quand même. Et il n'y a pas que du HPI, il y a d'autres choses, mais il faut qu'HPI soit là pour que ces autres choses existent aussi.
Est-ce qu'il y avait du monde parce qu'il y avait du cast ?
Oui, 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 clairement. Bah, oui, voilà, bien sûr.
Tu vois.
Oui, oui, mais bon, c'est un peu le but
si
de la série.
Même si demain Philippe Risoli se pointe pour présenter une série, les gens viendront quand même. Hein.
Non, mais en festival, on sait très bien que les séries françaises, c'est celles qui attirent le plus de monde. Hein. Et tu voyais bien à Cannes Série, franchement, quand c'était Brocéliande, alors oui, il y avait Nolwenn et tout ça. Je peux dire que moi, j'ai fait des projections de séries américaines ou canadiennes où il y avait la salle à moitié vide.
Il y avait du monde pour Une amitié française, je crois, qui est assez horrible à regarder.
Oui.
Une amitié dangereuse, c'est le... ne regardez
et
pas.
Et le casting, à part Jérémy Gillet, il n'y avait pas grand monde.
Voilà, mais par contre, il y avait du monde parce que même le casting n'était pas très connu.
Ah, voilà, oui.
Et, ouais. Mais il y avait du monde, il y avait des ados.
Bah, il suffit de voir d'ailleurs, même au Festival de Monte-Carlo, hein, ils font des conférences Plus belle la vie.
Les quotidiennes, ça tu peux pas. Les quotidiennes,
c'est dingue.
Ça, il y a des fans et publics.
Alors, est-ce que c'est culte Plus belle la vie ?
Bien sûr. Moi, j'ai jamais vu un épisode, mais je peux dire que c'est culte, ne serait-ce que par l'impact sociétal que ça.
Ils ont invité le quartier du Panier à Marseille et tout. Enfin,
on connaît tous le générique.
Merci à eux.
Est-ce que le salut de la série culte viendra pas du coup de la série française ?
Vous avez entendu la pression là. Ouh.
Je regarde que Elodie.
Non, ça vient pas des séries françaises, puisqu'il y a des séries US cultes bien avant les séries françaises.
Enfin, non, mais à venir, je veux dire.
Ah, à venir.
Non.
Par contre, les séries qui vont nous marquer, je pense que oui. Non, mais pas que françaises, mais les séries qui vont nous marquer ne seront peut-être plus les séries américaines. C'est peut-être l'effet que ça va avoir aussi, c'est qu'on va aller chercher d'autres choses pour être surpris. En tout cas, ceux qui regardent beaucoup de séries, on va aller chercher d'autres choses. Et là, clairement, ils sont en train de tuer leur modèle, donc on va aller voir.
Alors, regarde Squid Game.
Oui, clairement.
Ouais. C'est exactement ce qui se passe au cinéma aussi. Hein.
Oui.
Et on voit de plus en plus aux Oscars, par exemple, pointer des films qui sont pas américains. Et parce que, mais c'est la même chose en fait dans plein de domaines qui étaient réservés aux Américains depuis longtemps et en fait qui s'ouvrent de plus en plus à l'international parce que peut-être qu'ils ont fait le tour de tout ça, quoi.
Taylor Swift est venu à Paris.
Dernière question, quel est le mieux, diffusion hebdo ou binge? Pas diffusion mono.
C'est très subjectif.
Tout mettre.
Déjà allonger le nombre d'épisodes des saisons et après on en reparle.
Ah bah, qu'on puisse au moins s'attacher un peu aux personnages parce que là on a à peine commencé qu'on a fini. Donc...
Mais est-ce dépend, que du... Parce qu'il y a des séries où je me dis ah, putain, il y a 10 épisodes, c'est trop en fait, j'ai pas le temps.
Bah ouais, mais après.
Ça fait ton choix, il faut arrêter
mais
la
après,
série.
C'est... Enfin,
parce que tu sais le nombre, du coup tu sais la fin. Tu vois. Ouais,
mais non, mais ça va être une série que je vais adorer. Je veux dire, il n'y a pas assez d'épisodes. Et des fois, je vais lancer une série, je me dis, putain, il y a trop d'épisodes.
Arrête. Tout simplement, mais je vois pas pourquoi tu
continues. Ça veut dire que c'est pas assez bon pour toi.
C'est-à-dire que tu t'obliges à la regarder.
Avant même que je lance la série, juste des fois, je vois juste qu'il y a beaucoup d'épisodes. Oui. Je me dis, ah bah merde, j'ai pas le temps.
Oui, mais après, c'est si en regardant, tu vas aimer.
Mais voilà, exactement, c'est ce que je dis.
C'est parce qu'on en regarde trop, ça aussi.
Mais voilà, c'est parce que.
Le mec, il sort si Riverdale et puis.
Ouais, mais c'est un épisode par semaine.
Ouais. Une
j'ai regardé tout Grey's Anatomy il y a 2 ans, j'ai rattrapé 17 saisons en binge et je regrette pas. Mais c'est vrai que la réflexion que je me suis faite, c'est ça devait être incroyable quand tu regardais à l'époque, d'une semaine à l'autre, quand tout le monde en parlait, et puis surtout des cliffhangers dingues à chaque fin d'épisode. Donc je pense que c'est une façon de regarder la série qui est différente. Aujourd'hui, quand tout est dispo, rien ne t'empêche de regarder ça de façon hebdomadaire. Hein.
Le truc, c'est qu'on revient au côté banal de la série. En fait, le truc, c'est qu'avant, moi, j'ai plus trop d'avis sur la diffusion hebdo ou binge parce que, en fait, avant, l'intérêt du truc, c'était que ça s'arrêtait et après, il fallait attendre un an et on n'avait rien d'autre à regarder, en fait. C'est-à-dire que on était comme des cons et on se disait, je veux absolument la suite, je veux absolument la suite. Et on avait cette frustration qui nous amenait jusqu'à l'année d'après. Alors que là, en fait, qu'on le binge ou qu'on regarde ça de manière hebdomadaire, on finit la série, on en recommence une autre. Et même sur Reservation Dogs, que j'adore et qui est vraiment ma série doudou de... En fait, le truc, c'est que je l'ai fini, j'ai la petite larme à la fin du dernier épisode, et puis en fait, après, j'ai pas eu ce manque que j'ai pu avoir sur certaines séries, parce qu'en fait derrière j'ai commencé une autre série en fait. Donc c'est voilà. En fait, peu importe, on a les trucs qui tombent avec tous les épisodes. Après, chacun est libre de regarder. Moi je binge jamais, mais parce que j'ai pas le temps aussi.
Et du coup, je regarde un épisode par-ci par-là, des fois même des demi-épisodes, et puis parce que les épisodes sont quand même très longs maintenant. Et mais en fait, chacun. Mais c'est vraiment la. Par contre, la frustration du trop de séries qui fait que.
Mais c'est plein de critères en même temps, quoi. C'est l'écriture de la série, le nombre d'épisodes, la façon combien d'épisodes tu regardes. Crée aussi la qualité et la réception
de la série. C'est aussi la capacité de mon cerveau à accueillir autant d'informations, parce que là, moi, je suis dans Shogun, là, en ce moment, honnêtement, je suis paumé, je regarde tellement de séries en même temps, qu'en fait, Shogun qui nécessite de savoir qui est qui fait quoi, qui a la stratégie, machin, en fait, mon cerveau, entre deux épisodes, il a oublié. Donc, quand je commence un épisode, je me dis, attends, c'est qui lui? Et c'est... du coup, je peux pas l'apprécier.
Mais est-ce que c'est la faute de la série ou c'est ta faute?
Non, c'est le fait que j'ai trop de séries à regarder, en fait. Donc,
avant, on en regardait plein.
Je regardais pas autant de séries en même temps, en fait.
Il a pas le temps, Olivier, donc il en regarde pas tant.
Si, parce que j'ai pas le temps, parce que je regarde. C'est...
Tu regardes trop, mais une par une, quoi, comme ça.
Mais après, personne t'oblige à regarder autant de séries.
Oui.
Genre, t'as pas Netflix avec un flingue sur la tempe en disant il faut que tu regardes ça.
Déjà, j'ai 3 ans de retard. Alors, si en plus.
Oui, mais c'est là le problème. C'est
t'es encore en pleine Pic TV.
On a 3 ans de retard. On n'a pas 3 ans de retard. En fait, tu l'as dit tout à l'heure. Faut regarder à notre rythme et tant mieux. C'est pas
oui,
grave.
Mais enfin, il y a quand même des séries qui s'inscrivent dans leur temps aussi. Moi, par exemple, vous parlez de Véronica Mars. Moi, Véronica Mars, j'ai essayé de la regarder il y a peu de temps. Enfin, il y a 4-5 ans. Honnêtement, j'ai regardé le truc, j'ai fait hop, on va passer parce que c'est plus regardable maintenant.
C'est une show en plus.
Non, mais enfin vraiment, c'est à dire que c'est quelque chose qu'il aurait fallu que je vois au moment où ça a été diffusé, j'aurais adoré, je suis sûr. Et en fait, là, je l'ai regardé, j'ai fait.
Bah, il m'est arrivé la même chose avec Véronique Mars. J'ai regardé 3 épisodes et je me suis arrêté.
Il y en a qui regardent NCIS depuis 20 ans.
On n'a pas grandi avec, donc je pense que c'est vraiment.
J'ai pas grandi avec Dawson et du coup ça me cringe Dawson.
Bah voilà.
Désolé. Mais donc du coup, en fait, c'est vrai que j'aime bien. Enfin, il faut quand même regarder les séries. Mine de rien, par rapport au cinéma, les séries, ça s'inscrit dans un contexte de l'époque, c'est sociétal, c'est beaucoup plus que le cinéma. Donc le cinéma, on peut rattraper des films plus tard, c'est pas très grave. Je trouve que la série, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien, qui fait partie de l'époque. Et du coup, si on les loupe trop, enfin si il y a des séries 4 ans plus tard, elles ont pas le même impact, quoi.
J'ai regardé The Mary Tyler Moore Show l'année dernière, donc série des années 70. Je peux te dire que elle m'est attaquée à la majorité de ce qu'on regarde.
Non, mais évidemment, moi je.
J'ai regardé
les 7 saisons, donc.
J'ai regardé Cheers, pareil. Enfin, j'ai adoré. J'ai pas. Mais en même temps, je me dis, à l'époque, ça devait être encore mieux parce que ça devait être encore plus corrosif, encore plus. C'est-à-dire que, par exemple, l'humour de Cheers, moi, je me dis, à l'époque, ça devait quand même être un truc de fou. Alors que moi, maintenant, je le regarde maintenant, ça me fait rire, j'aime beaucoup la série, mais c'est moins, c'est moins corrosif que ce
qu'on alors que pour le coup, Mary Tyler Moore Show, même aujourd'hui, je me dis, mais comment ils ont pu diffuser un truc pareil pendant 7 ans sur CBS et que ça ait marché, quoi.
Il y a Maud aussi, avec...
Avec Bia Arthur.
Ouais.
Même Écrakante aussi, pas
oui,
fait
un peu mal. Golden Girls aussi, ouais.
Qui fait un peu... C'est d'ailleurs, je crois que c'est dans cette série sur le premier épisode sur l'avortement.
Oui.
Il y a
un truc dans le genre, mais enfin, bon, après, il faut regarder aussi les vieilles séries, de temps en temps, ça fait
mais l'écriture est différente, c'est-à-dire que l'épisode se suffit à lui-même, c'est pas du tout feuilletonnant. Donc, est-ce que toi, t'as regardé des séries feuilletonnantes très vieilles?
J'ai commencé le spin-off de Mary Tyler Moore Show. Donc, c'est Lou Grant, qui est passé de la comédie à un drama sur un journaliste et c'est du feuilletonnant. Donc, oui. Et ça marche tout aussi bien.
J'ai vu le Prisonnier, l'ancienne version, ça marche très bien de cette manière-là.
De quelle manière?
De cette manière de sérialiser l'histoire.
Tu l'as regardé en binge ou en...
Non. Non, non.
Non, parce que t'as l'attente entre chaque épisode.
Oui, bien sûr. Non, mais là, je l'ai pas. Non, mais là, je l'ai pas. Mais
un épisode qui te suffit pas.
Le Prisonnier, c'est très compliqué à binger. C'est hyper dur.
Parce que t'as des épisodes qui ne suffisent pas. Tu regardes le suivant parce que celui que t'as regardé ne t'a rien apporté. Quoi.
Oui, mais c'est encore une histoire de filler et de pas filler.
À l'époque, un épisode mauvais, tu dis, c'est pas grave, t'en as d'autres. Oui. Là, si une série feuilletonnante est mauvaise au bout de 2-3 épisodes, tu l'arrêtes. Si l'histoire te plaît pas.
Généralement, toi, t'as ta règle des 6 épisodes, moi j'ai ma règle des 7 et je fais au
j'ai
moins.
J'ai dit 5, entre 5 et 7.
Voilà.
Non, regarde, ils veulent. Si y en a un qui est mauvais, tu sais que le prochain, ça va être un truc totalement différent, même si t'as un peu le fil rouge. Mais Walking Dead, si c'est nul. Tu vas pas dire, peut-être que le prochain va être mieux.
C'est une histoire d'appréciation.
Tu sais où ça va.
De la personne qui la regarde aussi. Si t'aimes les zombies, oui, tu vas te taper 2 épisodes peut-être mauvais, et puis après t'en auras le final qui est cool, et puis voilà.
Le débat devait durer 20 minutes, je crois qu'il a fait 1 heure. Mais... du coup, je sais pas par quoi conclure, si vous avez une série à conseiller actuellement. On fait un tour de table, on commence par Aurélien. Ou une série à déconseiller.
La fièvre, regardez pas La fièvre.
Ah non, arrête, oh là là.
Non, ne regardez pas.
Suivant.
Les gens, ils regardent plus de séries, en fait. Voilà. C'est ça,
Game of Thrones.
House of the Dragon, voilà.
Moi, ça serait Evil pour être à jour, pour regarder la saison finale.
Ils ont annoncé la 3, donc ils ont annoncé la 4, le 23 mai.
Le 23 mai.
Oui, c'est ça.
Si je me trompe pas, voilà. 24. Voilà. Je me suis trompé. En hebdo.
Reservation Dogs. À regarder. Sur
Disney+.
Ouais, moi, pareil. Il n'y a même pas de débat sur la. Enfin, sur leur récent, pour moi, c'est vraiment la série qu'il faut regarder.
Vas-y, La fièvre, hein, mais...
Mais, tu peux.
Mais sinon, la saison 4 de HPI est très bien, donc regardez-la à partir du 16 mai. Sur TF1. Ou TF1 plus. Je travaille pas pour TF1, je travaille pour M6. Hein.
moi, je dirais The Way Home, mais qui est toujours pas diffusé en France. Mais qui a déjà 2 saisons et qui est.
Attends, c'est quoi ça?
Un petit drama fantastique avec Andy McDowell et Shailer Lee.
Kyler Lee, pardon.
C'est sur Hallmark, mais faut pas se.
Ah ouais, sur Hallmark Channel.
Faut pas se baser par rapport à la chaîne.
juste un truc, justement, comme on disait. Comme M6 Plus est lancé cette semaine, ils vont lancer avec la diffusion de la série Les Espions de la Terreur qui n'aura pas été encore diffusée sur M6.
Je ne savais pas.
C'est
très intéressant. Ouais. C'est quoi la date du coup?
M6 Plus est sorti, sort le 15 mai, donc normalement.
Mais genre pour le lancement.
C'est le lancement de M6 Plus le 15 mai, et normalement. Comment?
Il y aura Black Sails.
Ah, qui revient, c'est plus sur Netflix, Black Sails?
Non, c'est.
Je crois qu'M6 l'a acheté, ouais.
Ah, ok.
Ça pour dire que Les Espions de la Terreur, c'est 4 épisodes, mais c'est une très
très
bonne
bien.
Série.
C'était ouais, sur les attentats.
Sur l'après 15 novembre. Série, 4 épisodes, ouais. Non.
Bah, c'est une mini-série.
C'est une mini-série.
Voilà. C'est une mini-série.
Je réfléchis à un truc sur Apple. Franchement, j'étais bien étonnée par Sugar, alors que c'était vraiment pas ma cam sur le synopsis. Pas encore.
Okay, pas on en reparlera après. Alors.
Ouais. Et, et pour le coup.
Alors, sans accent, c'est Sugar. Sugar. Moi j'avais compris Shogun.
Ah, oui,
non, c'est Sugar.
Shogun.
Shogun là.
Ouais, j'ai...
N'importe quoi. Ouais, et pour le coup, je les apprécie vachement hebdomadairement.
tu as un problème avec ce mot. Hein.
C'est parce que j'ai un accent, vous voyez. Voilà.
Et Sugar, l'épisode 6, c'était vraiment fou comme ils disaient.
J'en sais rien, on le verra. Et, donc,
ah,
du
c'est
coup,
pas encore.
Mais...
C'est qui,
Incroyable. Et Big Door Prize quand même, parce que là j'ai rattrapé. Donc,
Bien, très bon choix.
Ouais,
on vient de
commencer et le premier épisode était plutôt sympa. Ouais. Alors, moi je recommande Sugar aussi, ne serait-ce que pour la fin de l'épisode 6. Je pense que ça faisait très très longtemps que j'avais pas été aussi.
Si tu me dis que t'as été surpris, je me lève et je t'en mets une. Hein. Parce que c'était teasé depuis le premier épisode, tout ça.
Ah, oui, bon, bref. Ouais. Et sinon, The Veil avec Elizabeth Moss, ouais, ouais. C'est vraiment pas mal.
Maxime.
Et pour une fois, on n'a pas Elisabeth Moss qui regarde la caméra.
Oh. Ouais, mais elle est devant la caméra et franchement.
Non, franchement, ça va. Oh, et l'histoire, elle est cool. Ouais.
Alors, et pour. Oui.
Et toi?
Moi, House of the Dragons, par contre, c'était en fait un déconseil. Hein. Je t'avais dit que je pouvais faire les deux, donc. Mais sinon, je rattrape The Shield et c'est vraiment très très bien.
Ah,
sur la
série.
Et Doctor Who qui a commencé?
Ben,
parce que c'est aujourd'hui.
Pas moi.
Moi, j'ai vu le premier.
Ouais,
alors
c'était bien.
De la saison 1. Hein. Donc nouvelle série.
Non,
saison
1.
Saison 1.
Pardon, sur le site de mes cousins d'Amérique, il y a marqué 14.
Moi, je... Oui, mais ils ont tort. Oui.
Ils l'ont changé. Ah,
moi, je ne comprends rien à la temporalité de cette série. Ça fait 5 ans que j'essaye de m'y mettre. Je ne sais pas par quoi commencer.
Mais commence maintenant.
C'est pas bête.
Non, mais ils ont fait exprès. Ils ont rebooté pour.
Est-ce qu'il faut regarder le premier ou le téléfilm?
Léger.
Ah oui, parce que oui, en plus,
le Noël.
C'est pas drôle.
Il faut commencer par le Noël.
Et pas les épisodes d'anniversaire d'avant?
Non, c'est pas. Si tu veux,
non, faire pas en 1967.
Non, mais même pas en 2023.
Non, mais voilà, parce que. Oui, non, t'inquiète, moi, ils sont en train de débattre depuis 5 minutes sur par quel épisode commencer. Bon.
Mais sur Disney+, ils ont mis l'épisode de Noël comme épisode 1 de la nouvelle saison. Ouais. Ça, ça m'a un peu perturbé, j'avoue.
Ouais, ça a perturbé. C'est l'introduction de Chouti.
Mais oui, mais ils auraient pu mettre un épisode spécial comme pour les 3 épisodes spéciaux, en fait. Ça, j'ai pas compris. Bref.
Voilà. Très bien.
Sinon, tu peux pas les ranger.
Mais du coup, on regarde lequel alors? Parce que là, j'ai toujours pas compris.
Tu regardes la saison 1 sur Disney+.
D'accord.
Et la saison 1 de 2024.
Non, mais arrête.
Ah oui, c'est ça. Ils ont mis saison 1 2024.
Non,
ont...
parce que c'est la première fois que Disney+ a de Doctor Who, donc ils ont pas du tout.
Mais ils ont pas les saisons d'avant?
Non, ils ont plus.
Ah.
Voilà. C'est pas. C'est... Oui, non, c'est, non, parti... c'est compliqué.
Ouais. D'accord.
Bah oui, on avait bien compris.
Et oui, toi, Tom, du coup?
Rien du tout. Moi, je regarde plus rien. C'est pour ça que j'arrête. Hein. Je regarde plus rien. Si, ils veulent, évidemment. Évidemment.
Ouais. On va conclure ici. Je remercie tout le monde d'avoir suivi le podcast pendant
10 ans.
Toutes ces années, pendant toutes ces émissions. Peut-être qu'on en a gagné et on a perdu certains. Comme on perd des causeurs, on en gagne certains aussi. C'était un plaisir pour moi d'avoir fait ça en vidéo et en audio. Je laisse la main à qui veut, à mon équipe, voir s'ils veulent continuer ou pas.
Oui.
Et on reviendra, parce qu'on a les 10 ans de toute façon à faire en octobre. Donc je reviendrai. Comme pour les séries, on parle d'âge d'or, les trucs comme ça, faut laisser un peu le temps, il faut partir pour mieux revenir. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Et merci pour ces 200 émissions. Et j'espère que c'est 200 et pas 201, parce que sinon on est mal. Voilà. Et c'est un causeur sur tous les réseaux.
Ben non, pardon. Mais...
Donc pas de mots de mon équipe, c'est bien. Merci à tous. Au revoir.
Non, mais après je vais pleurer si je dis des bêtises. Alors ça me. Ben non, arrête. Je sais pas moi quoi dire à part merci à Tom. Parce que bon, on est quand même déjà autour d'une table qui discute. Bonsoir. Enfin, on était déjà au début sur du. Enfin, vous étiez au début sur
le
du canapé.
Canapé qui était le logo
canapé,
de l'émission.
On
a commencé dans un bar quand même.
Ouais. Ah ouais.
Pourquoi on n'a pas continué?
C'est vrai qu'on a été viré du bar. Après, ouais. Bah oui. Je sais plus. Il voulait plus. Ouais. D'ailleurs, pour l'anecdote, enfin, on redira pour les 10 ans. Mais on avait fait la première présentation des invités et des causeurs. Et en fait, la caméra marchait pas. Donc, on est revenu le lendemain avec les mêmes vêtements, mais devant personne. Et on a juste fait l'intro. Et la magie du montage.
Je comprends pourquoi ils vous ont viré. En fait.
Mais la magie du montage fait des choses. À qui parfois.
À une voix de robot.
Non.
Elle disparaît des
parfois,
podcasts.
Parfois, elle n'est pas enregistrée. Oui, et elle fait l'émission de son côté. Et la magie du montage fait qu'elle croit qu'elle est.
Pour ça, genre, j'ai un pote qui m'a dit: ah oui, je pensais juste que tu guiguais à côté, que tu les écoutais pas.
Je pense qu'au nom de tout le monde, de tous les causeurs et même de tous les invités et de à peu près tous les gens qui nous écoutent, merci beaucoup. Et si les causeurs sont partants, on continuera, même si tu n'es pas là et que ça fera quand même un sacré vide. On fera des points lost sans aucun problème pour toi. Et puis,
C'est le moment de lâcher.
Non.
Ça fait un bail qu'on n'en fait plus.
Et donc, et personnellement, moi, ça me fait quelque chose que tu nous abandonnes.
T'as pas dit ça quand moi je suis parti. Hein.
Non, parce que j'étais pas là quand t'es parti, donc c'est pour ça.
Tu m'as remplacé.
Ouais, c'est ça. Je suis devenu la nouvelle Elodie. Et maintenant je vais devenir le nouveau Tom. Donc attention les gens.
Pas voilà. De chance. Tu passes Elodie.
Merci
Tom.
À tous et à très bientôt.
Merci.
Au revoir.